La parole de Dieu se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Lisons à tour de rôle. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus dans la nuit où il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, fais ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, fais ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Prions pour que nous puissions écouter la parole de Dieu et prions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu avec sainteté et prions pour l'évêque pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Dieu le Père, à ce jour saint, nous voulons écouter ta parole, que nous puissions supporter ta parole. Influence ton serviteur que tu as établi pour que tu leur donnes ta parole. Agis sur lui, que rien ne lui manque pour qu'il puisse faire ta volonté. Donne-lui donc la sagesse de la parole, l'inspiration et la puissance de la parole, et que tous les membres de l'Église qui ont été sanctifiés soient tout prêts à recevoir ta parole. Donne donc leur une grande inspiration et une puissance spirituelle. Je prie au nom de Jésus. Commémorer le Seigneur Jésus, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu nous a retrouvés alors qu'il nous avait perdus. En outre, il nous utilise afin de chercher les autres perdus. Bien que nous soyons revêtus d'un corps charnel, nous, dont l'essence est l'être spirituel, sommes les vases glorieux qui aident à l'opération salvatrice de Dieu. Le Seigneur Jésus nous recommande de la communion sainte et nous fait commémorer sa mort. Nous nous souvenons de son amour et de sa grâce et lui rendons grâce à travers ce repas saint. C'est ainsi que nous pouvons être changés vraiment et remplir notre devoir pour sauver les hommes du monde. Nous sommes les co-ouvriers qui remplissent cette mission en nous aimant les uns les autres, en nous encourageant et en triomphant du monde. Le Seigneur nous donna le nouveau commandement afin de renforcer et de raffermir l'Église du Christ en montrant l'exemple coréen. N'oublions pas que nous sommes ceux qui propagent constamment le sang et la chair du Seigneur. Manifestons notre gratitude envers l'amour de Dieu par notre amour et notre gentillesse mutuelle. Devenons une Église qui évangélise et mettons toujours en pratique le nouveau commandement. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ qui transmet le sang et la chair du Seigneur. Mes bien-aimés, vous et moi, avant que nous entrions dans l'Église, nous avons été perdus par Dieu. Dieu nous avait perdus, en fait. Donc, nous avons été perdus, abandonnés, délaissés. Alors, nous ne savions pas où nous devions aller, parce que nous avons été dans les ténèbres. Nous étions dans l'ignorance de Dieu. En plus, nous ne savions même pas qui nous étions. C'est pourquoi, après avoir cru en Jésus, Si nous pensons à notre passé, nous pouvons nous rendre compte que nous sommes encore éloignés de Dieu et que notre existence fait l'objet de notre doute. Mais aujourd'hui, Dieu nous a retrouvés. C'est pourquoi nous sommes dans l'Église. Donc, je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Aucun d'entre nous n'a pas été oublié par notre Dieu le Père. Donc, c'est un point très important. Alors là, j'en remercie à Dieu. Nous avons été perdus, donc nous avons heureux par le passé. Mais Jésus s'est rappelé de nous tous, il nous a tous retrouvés et il nous élève encore aujourd'hui. Il s'intéresse à nous tous. Donc nous n'avons pas été délaissés définitivement. Il nous a retrouvés. C'est pourquoi je remercie vraiment Dieu pour cela. Nous avons été abandonnés dans le passé. Nous, ici, c'est qui? En fait, il ne s'agit pas de nous qui vivent dans ce monde. En fait, il s'agit de notre vraie existence qui se trouve dans notre intérieur. Chacun de nous possède le nom et nous vivons dans un environnement différent et nous vivons dans une société différente et nous vivons une vie dans ce monde et nous avons des enfants et nous nous vieillissons de jour en jour. Nous souffrons dans ce monde en rencontrant beaucoup de problèmes et nous nous disputons avec quelqu'un. Voilà la vie que nous avons vécue. Mais ce « nous » n'est pas vraiment n'est pas le vrai « nous ». Il s'agit tout simplement de notre extérieur. Il faut que nous retrouvions notre intérieur qui est le vrai nous. Donc, le vêtement que nous portons à l'extérieur n'est pas le vrai nous. Pendant que nous vivons dans ce monde, nous avons en fait cet extérieur. Certains vivent avec méchanceté pour ne pas souffrir dans ce monde, pour pouvoir survivre. Nous vivons une mauvaise vie. Et certains nuisent aux autres. Et c'est comme ça que nous vivons dans ce monde et on devient mauvais de jour en jour. Donc, on a des aspects méchants et dans cet environnement, nous sommes forcés de vivre d'une telle ou telle manière. Certains d'entre nous sont pauvres. Face à cet environnement difficile, nous souffrons énormément. Voilà, c'est la vie que nous avons connue. Donc, il y a eu un environnement difficile où nous avons vécu. Nous avons poursuivi notre désir charnel. Nous avons vécu selon notre propre volonté. Il n'y avait pas d'autre choix. Nous ne pouvions que vivre d'une telle manière. Avant que Dieu nous retrouve, nous avons été attachés au désir charnel. Nous avons été donc enfants de la colère. C'était notre nature. Par le passé, nous avons vécu selon notre désir charnel. En fait, vous savez ce que c'est l'environnement du monde. Dans cet environnement, les méchants vivent bien. En fait, ce qui est normal, ce qui doit être normal, c'est que les méchants ne doivent pas prospérer. Mais malheureusement, les méchants vivent bien dans ce monde. Et ceux qui ont une bonne personnalité souffrent dans ce monde. Et donc, ce sont les méchants qui prospèrent plus facilement que les justes. C'est ce que nous observons. Donc, nous pouvons penser que le monde existe pour les méchants. Alors, pour que nous puissions survivre dans cet environnement, il faut que nous nous conformions à cet environnement pour pouvoir survivre. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir une nature égoïste. Et on peut évoluer aussi selon le changement et selon l'environnement de ce monde. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais tout sera corrigé un jour. En fait, les méchants semblent prospérer, mais ce n'est pas leur fin. Et tout sera révélé, tout sera corrigé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est la méchanceté? Sur la notion de la méchanceté, on ne connaît pas très bien, on n'est pas sûr. Mais et un jour, nous allons sortir de notre extérieur, notre vieil homme. Et donc, ce qui est important ici, c'est que nous devons être totalement libérés de notre chair. Premièrement, il faut que nous recevions la grâce et l'amour de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Et deuxièmement, il faut que nous dépassions notre inquiétude. Dans le passé, nous avons été dominés par le monde, nous avons été opprimés par le monde, nous avons été toujours en colère. Mais il faut que nous dépassions ce genre d'inquiétude. Et il faut que nous retrouvions nos charges que nous avons reçues en tant qu'enfants de Dieu. Et en se faisant, nous pouvons comprendre le sens de notre vie, le vrai sens de notre vie. Nous sommes serviteurs de Dieu, c'est ça notre statut. Et c'est un statut glorieux, c'est une opportunité de gloire pour nous. Donc il faut que nous saisissions cette opportunité. L'environnement qui nous entoure n'est plus souffrant. Si vous êtes étudiant ou élève, ou bien si vous êtes salarié, votre famille, votre école, votre société, votre compagnie ont été sanctifiés. Et puis nous devons influencer notre environnement au lieu d'être opprimés par cet environnement. Pour cela, nous devons avoir une puissance. Et il faut que nous soyons toujours en paix. À ce moment-là, notre famille sera sanctifiée. Notre famille, notre école, notre compagnie seront une demeure sainte si nous sommes changés, si nous sommes sanctifiés. Donc, où nous retrouvons, là où nous nous retrouvons, il y a la sainteté de Dieu. Donc, nous avons été pollués par le monde, mais il ne faut plus être opprimé par ce monde. Et il faut que Dieu marche avec nous où que nous soyons. Et lorsque Dieu nous retrouve, il ne faut pas toujours haïr le monde. Il ne faut pas toujours être opprimé par ce monde. Lorsque Dieu nous retrouve, il faut que nous arrivions à supporter le monde et dominer le monde. Parce que nous marchions avec Jésus, on s'est relevé avec Jésus et on s'est assis avec Jésus sur le trône céleste. Notre Dieu est bienveillant, il est dans les cieux, mais nous sommes encore sur la terre, mais nous serons dans les cieux. Alors, pour nous conduire dans les cieux, il a inscrit sur le livre céleste nos noms, nos prénoms. C'est ainsi que nous avons reçu une très grande grâce de la part de Dieu. Il faut que nous remercions notre Dieu de nous avoir donné cette grâce. Mais alors, Dieu a pratiquer sa volonté en notre faveur. Nous avons reçu sa grande grâce. Seigneur Jésus a soupé avec ses disciples juste avant de mourir. Si vous regardez l'évangile de Luc, juste avant qu'il souffre, il a mangé avec ses disciples. En fait, il souhaitait vivement manger avec ses disciples. C'était le dernier jour, c'était son dernier jour dans ce monde. C'était son dernier jour, c'était la dernière opportunité. Alors, Jésus souhaitait vivement manger avec ses disciples. Et alors, c'est lui qui a fixé un jour pour pouvoir manger avec ses disciples. Et il a parlé de sa mort, de sa résurrection pendant ce repas. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps et qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sens, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Il a dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, il a rompu du pain et il en a distribué à ses disciples. Donc le pain a été rompu. Mais et finalement, son corps a été déchiré. Donc les disciples se sont rendus compte que sa chair, la chair de Jésus avait été, a été déchirée. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Les Israélites savent très bien que l'alliance a été faite sur la base du sang. À l'époque de l'Ancien Testament, le sang des animaux a été aspergé. Et à l'époque du Nouveau Testament, on a reçu une nouvelle alliance selon laquelle les hommes peuvent être pardonnés de leurs péchés. Si vous regardez l'évangile de Matthieu, on parle du sang de l'alliance de Jésus qui pardonne les péchés de l'humanité. C'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance ne pouvait pas nous sauver, mais la nouvelle alliance nous a sauvés. Et un certain temps après, Jésus a versé tout son sang. Donc Donc les disciples de Jésus se sont rendus compte que la coupe qu'ils ont vue symbolisait le sang de Jésus. Donc, en fait, les disciples de Jésus ont été vraiment choqués par la crucifixion de Jésus. Jésus est mort sur la croix et cela nous a montré l'amour de Dieu. En fait, Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer. En fait, il nous a montré son amour. Il a agi pour nous montrer son amour. Donc, il a ainsi pratiqué son amour. Et ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que c'était? En fait, il a abandonné même sa vie. Sa chair a été déchirée, son sang a été versé. Et c'est lui-même qui est devenu l'offrande de sacrifice. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés. C'est ainsi que Dieu nous a donné ce qu'il pouvait nous donner. Il a fait le plus grand sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Voilà l'amour de Dieu pour nous. C'est ainsi qu'il a pratiqué son amour envers de l'humanité. Alors, il faut que nous écoutions la parole de Jésus et y croire pour pouvoir être sauvés. Donc, il est très facile d'être sauvé. Mais Jésus a abandonné sa vie, il a souffert. Il devait supporter toutes sortes d'insultes, toutes sortes de tribulations et de persécutions. Alors, les disciples de Jésus se sont rendus compte de la valeur du sang, de la chair de Jésus. Nous devons aussi poursuivre Jésus-Christ à l'image de ses disciples. Alors, Seigneur Jésus a accompli le salut de l'humanité. Le sang de Jésus a pardonné les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Et les morts ont été ressuscités par ce sang-là. Et le sang de Jésus nous a donné la vie de Dieu. La chair qui a été déchirée, le sang qui a été versé, nous a sauvés et nous protège. En fait, Jésus ne s'est pas contenté de racheter nos péchés, mais qu'est-ce que c'était la volonté de Jésus? En fait, il voulait nous conduire à la résurrection. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez la chair, vous aurez la vie et vous aurez la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus a parlé des œuvres qu'il va pratiquer et il nous a montré sa volonté très ferme visant à nous sauver. Il faut que nous comprenions correctement le sens de la communion. Il faut qu'on se rappelle de la vraie signification de la communion. Jésus toujours voulait glorifier le Père. Il a fait beaucoup d'attention pour que sa position ne soit pas supérieure à celle de Dieu le Père. Il voulait toujours montrer le fait qu'il dépendait de Dieu le Père. C'est ainsi qu'il a montré l'humilité. Alors Jésus a dit, « Souvenez-vous de moi. » Il n'a pas dit ça avant, mais juste avant de mourir, il a dit à ses disciples, « Commémorez-moi. » Et alors, en mangeant avec ses disciples, il attendait l'heure de sa mort. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quelle est la signification de la communion? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Et comme la chair qui a été déchirée, il faut que nous devenions ses membres, et en tant que membres de Jésus, il faut que nous annoncions sa mort, sa résurrection. Nous sommes tous à l'Église. Alors, à l'extérieur de l'Église, nous devons annoncer l'Évangile. Et ensuite, à l'intérieur de l'Église, on se réunit. Donc, ce qui est important, c'est qu'on se souvient de Jésus-Christ et il faut qu'on s'unisse autour de Jésus. C'est Jésus qui nous unit. En fait, les gens de ce monde vivent d'une manière très égoïste. Dans le passé, nous avons été dans Adam et nous avons été tous un en étant dans Adam. Mais aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes entrés en Jésus en tant qu'Église. Par le passé, il y a eu l'Église de l'Ancien Testament qui possédait la foi d'Abraham. Alors, les gens du passé étaient tous dans le même destin. Selon la volonté de Dieu, donc ils étaient tous dans le même destin, ils pouvaient être sauvés collectivement. Le Seigneur Jésus a réuni 12 disciples pour que ces derniers puissent écouter la Nouvelle Alliance en participant à la communion. Et dans la chambre de Marc, 120 disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Et Jésus leur a dit, de faire recevoir le Saint-Esprit aux chrétiens. Maintenant, nous appartenons à Jésus qui est le Fils de Dieu. Alors, Jésus nous représente, il est notre tête, il est notre représentant. Et nous représentons Jésus aussi. C'est la raison pour laquelle notre vieil homme, qui était très égoïste, ne doit pas réapparaître. Il faut que nous abandonnions notre attachement à nous-mêmes. Lorsque Jésus nous a rachetés par son sang, et nous avons été complètement changés, donc nous ne sommes plus attachés à notre corps. Parce que notre vieil homme était vraiment vain. Il n'est pas nécessaire de retrouver notre vieil homme parce que notre vie du passé était vraiment fatigante. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Et il ne faut plus se laisser emporter par le passé, hein, parce que nous sommes sortis de notre vieil homme. Nous avons crucifié notre vieil homme. Donc, mes bien-aimés, c'est pas la peine de se dire « je dois réfléchir et je dois prospérer plus que quelqu'un. Je vais m'élever plus que quelqu'un. Je deviendrai comme un Dieu. » C'était notre vieil homme, mais il ne faut plus être lié à ce vieil homme. Il faut que nous soyons complètement changés. Qu'est-ce que c'est la communion? La communion qui a été commandée par Jésus nous permet d'entrer dans la nouvelle alliance. Donc, on s'est unis à la mort de Jésus-Christ. On n'avait rien fait. On n'avait rien fait, mais par la mort de Jésus, on a été rendu à la vie. Alors, c'est ce qu'on confesse lors de la communion. On est entré dans l'Église, c'est ce qu'on confesse lors de la communion. Donc, la communion ne doit pas se faire à tort à travers, et on ne peut pas faire seul la communion. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit avec le pasteur, avec les serviteurs de Dieu qui ont été oints, qui ont reçu des charges célestes. Donc, il faut qu'on soit avec un pasteur ou avec des anciens, avec des diacres consacrés. Donc, c'est le pasteur qui préside la communion. Il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir faire la communion. Seulement une ou deux personnes, ou deux ou trois personnes ne peuvent pas faire la communion à tort à travers. La communion est notre charge, notre raison d'être. Pourquoi vous existez? Pourquoi vous existez? On existe afin de faire notre mission consistant à sauver les âmes. Donc la communion nous permet de nous rappeler de notre mission. La communion nous permet de penser de nouveau à notre raison d'être. Et ceux qui participent à la Sainte-Cène doivent aussi penser aux affaires de l'Église. Ce n'est pas l'évêque qui finance les affaires de l'Église. Ce n'est pas seulement l'évêque qui s'en occupe. En fait, il faut que vous pensiez au financement des affaires de l'Église. Ce n'est pas l'évêque seul qui le fait. Si nous sommes en Jésus, nous devons penser aux affaires de l'Église. Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés par son sang. C'est pourquoi nous devons penser à l'Église. Il ne s'agit pas tout simplement... il ne faut pas penser tout simplement à notre famille, il faut penser à notre Église. Il faut financer les affaires de l'Église, c'est ça notre responsabilité. Pendant que nous sommes dans le monde, nous avons la chair. Mais puisque nous avons été sauvés, nous sommes devenus ses serviteurs. Et nous sommes devenus aussi ses enfants. Il ne faut plus donc dans l'erreur. Même si nous vivons encore dans le monde, il ne faut plus nous inquiéter des affaires du monde. Il ne faut plus avoir peur de ce monde. Il ne faut plus te laisser emporter par le cours de ce monde. Il ne faut plus être dans le désespoir total. En vivant dans ce monde, nous avons Jésus qui nous a sauvés. Alors, ceux qui subissent des préjudices dans ce monde pourront être énormément aimés par Dieu le Père. Donc, il ne faut plus vivre d'une manière égoïste. Il faut qu'on soit ensemble pour sortir vainqueur dans ce monde. Il ne faut pas être seul, donc. Il ne faut pas que nous soyons blessés dans ce monde en étant seuls. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on s'unisse autour de Jésus. En fait, si vous regardez la Bible, il y a eu un certain nombre d'événements juste avant le dernier souper de Jésus. Jésus a donné son nouveau commandement à ses disciples. Et Jésus leur a promis de préparer leur demeure céleste. Il leur a permis de leur envoyer le Saint-Esprit. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a prié à Dieu le Père pour que ses disciples soient protégés par Dieu le Père. Et finalement, il a été livré par Judas Iscariot, qui était l'un de ses disciples. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés en se sacrifiant au maximum. Donc, il faut que nous ressemblions à Jésus, c'est-à-dire qu'on sache se sacrifier et pour sauver les âmes. Ça doit être notre souhait. Il faut que nous sortions de notre vieil homme. Et il faut qu'on garde notre sainteté que nous avons obtenue en croyant en Jésus. Ce qui se trouve dans ce monde est charnel. Par exemple, l'envie, la gloire de ce monde, l'honneur de ce monde, tout ceci n'est pas venu de Dieu le Père. Et tout ceci est éphémère. Mais ceci pollue nos âmes. Mais si nous sommes avec Jésus, nous pouvons vivre éternellement. Donc il ne faut plus s'attacher à notre vieil homme. Il faut que nous soyons totalement changés. La communion nous permet de nous changer. La communion est très utile. Le Saint-Esprit nous transforme pour que nous puissions garder le nouveau commandement. C'est ça le but de la demeure du Saint-Esprit en nous. Donc, ce qui est important ici, c'est que nous devons nous efforcer d'être changés par le Saint-Esprit. Nous vivons encore dans ce monde. Donc on peut répéter les mêmes erreurs, hein, parce que nous vivons encore dans ce monde. Mais nous devons penser à ce que nous avons reçu par Jésus-Christ. À ce moment-là, nous pouvons nous réjouir lorsque nous séjournons dans ce monde. Pourquoi la communion est importante? L'apôtre Paul a dit, pourquoi il y a des parties, des clans au sein de l'Église? Pourquoi vous vous disputez? Pourquoi il n'y a pas de bienveillance entre vous? Pourquoi vous êtes tellement égoïste? Pourquoi vous pensez seulement à vous-même? Alors, mes bien-aimés, lorsque nous participons à la communion, il ne faut pas manger nos propres péchés, hein? Notamment les diacres consacrés et les anciens. Vous, en fait, lorsque vous faites la communion, agissez correctement, comportez-vous correctement, parce que vous, j'avais l'autorité de présider la communion, hein, donc vous devez vous comporter de manière très correcte et non égoïste. Il ne faut pas y avoir des clans ou des partis au sein de l'Église. Hein. Il faut que tous les membres de l'Église soient prêts à sacrifier même leur vie pour Jésus. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc ce qui est important, c'est être ensemble. Alors, et Jésus a donné une nouvelle alliance à ses disciples. Donc, lorsqu'on participe à la communion, il faut qu'on se vide. Premièrement, il faut que nous soyons remplis de gratitude envers le Seigneur Jésus. Et deuxièmement, il faut qu'on soit vidé et soit rempli de la bienveillance. La plénitude de la bienveillance. En fait, Jésus était dans ce monde en tant qu'être humain, mais aujourd'hui, Jésus est avec nous à travers le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on participe à la communion, il faut que vous soyez très bienveillants. On peut prier pendant la communion. Mais moi, en fait, pendant la communion, il vaudrait mieux qu'on soit très tendu et qu'on s'examine et examine les autres avec maximum de sobriété et avec tremblement. Parce que c'est une heure vraiment sainte. Et pendant la communion, il ne faut pas que vous priez pour vous-même, il faut prier pour l'Église. Hein? C'est ce que je souhaite. Nous sommes tous Église de Jésus-Christ. Nous constituons l'Église de Jésus-Christ. C'est ça notre nouveau statut. Alors, il faut qu'on collabore, il faut qu'on s'unisse. Parce que s'il n'y a pas unité, et le pays ne peut que périr. S'il n'y a pas l'unité, l'autre famille ne peut que périr. De la même manière, s'il n'y a pas l'unité, notre Église ne peut que périr. Il faut que nous soyons vraiment remplis de la grâce de l'amour de Dieu lorsque nous participons à la communion. Veuillez vous lever. Lorsque vous participez à la communion, soyons en paix, soyons paisibles. Il faut qu'il y ait des parties, des clans au sein de l'Église. Prions à Dieu. Seigneur, lorsque nous participons à la communion, que nous puissions te rendre heureux, agis sur nous, que notre Église qui représente Jésus puisse constituer le corps de Jésus-Christ. Prions tous ensemble.